Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste. Midi 13h.
17h. 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews. Et informations internationales.
Tous au poste. Tous au poste. Tous au poste.
Je continue.
Je souffle du nez en même temps.
Place entre chaque mot. Je vais trouver de rushing.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici. Vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi.
Sur le même
citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense. Encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue en ce Tous au poste du lundi 26 avril. Nous sommes partis pour 50 minutes de virée culturelle au programme aujourd'hui. Eh bien, il sera question de théâtre avec l'atelier d'Alberto Giacometti, une pièce actuellement visible au Théâtre du Hangar. Florent Robin nous en parlera dans quelques minutes au micro avec eh bien, toute l'équipe de cette pièce. Et puis en deuxième partie, eh bien, on parlera d'Allègre qui change le climat, point d'interrogation. Christian Coste recevra Alain Gioda. Mais pour l'heure et sans plus attendre, je dois encore présenter bien sûr Manuel Plaza qui est derrière les petits boutons de ce Tous au poste. Nous allons passer au bon plan. Je salue avant les maigres mais justes incursions militantes lors de la 24e cérémonie des Molières en ce dimanche 25 avril. Le comédien Nicolas Bouchot, Jean-Paul Faré sacré pour ses 12 pianos d'Hercule et le Théâtre du Soleil porté, je le rappelle, par Ariane Mouchkine ont dénoncé le désengagement impitoyable de l'État en matière de spectacle vivant. Voilà, c'est dit. Tout de suite, on passe au bon plan. L'association Larsen propose aux jeunes musiciens de sortir de leur garage et de se produire sur une vraie scène. Cette année, le tremplin se divisera en 3 soirées, 2 demi-finales à l'Antirouille et une finale avec une tête d'affiche surprise. Puis au premier round ce soir à 20h30 à l'Antirouille, 12 rue Anatole France, pour une petite entrée à 5€, c'est du rock. Côté jazz, Franck Nicolas, comme tous les lundis, agite sa trompette accompagnée par son jazz club à 21h30 au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figuerol, et c'est gratuit. Allez, on embarque dans la soul avec le Jam Open Your Soul, une scène ouverte aux musiciens de soul, de funk, de gospel. C'est en compagnie de Lucille Mur et c'est à partir de 21h30 à la Bodega L'Oscar à Colas, 8 place Lessa, qui vous en coûtera une petite entrée à 3€. Improvisation théâtrale avec le Toast, théâtre amateur de l'Université des Sciences et des Techniques. À voir à 18h30 au bar La Pleine Lune, 28 rue du Faubourg Figuerol. L'entrée est libre pour rigoler. Frédéric, hôtesse de caisse. Un texte de Claude Tail, mis en scène par Karim Amish, interprété par Véronique Hulin de la compagnie Hardy, une nouvelle compagnie montpellurienne. Vous assisterez donc au défilé des gens ordinaires à une caisse de supermarché. Oui, mais ce n'est pas pareil puisque c'est Frédéric. C'est à 20h30 au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, et il vous en coûtera entre 6 et 10 euros. Côté conférence, une conférence pop, un débat sur l'âge d'or de la pop culture dans l'Allemagne et la France des années 60 et 70 et la diffusion d'un documentaire de Jackie Mondin. C'est à 19h à la maison de Heidelberg, 4 rue des Trésoriers de la Bourse. Biodiversité, une conférence sur les approches économiques de la biodiversité par Jean-Michel Salès du CNRS de Montpellier, à écouter à 18h30 à la salle Rabelais, boulevard Sarail, sur l'Esplanade. Un café citoyen sur le thème « Quelle rénovation du Parti Socialiste ?» Une grande question à débattre avec Paul Alliès à 18h30 au Baloir, 21 boulevard Louis Blanc, l'entrée libre bien sûr. Et puis un café théologique, pourquoi pas, une conférence sur actualité de la laïcité par Michel Miaille, professeur émérite des sciences politiques à l'Université de Montpellier. C'est à 20h30 à la brasserie du Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau. La participation est libre. Yeah. Côté cinéma, nous saluons l'avant-première des Convois de la honte, un film documentaire de Raphaël Delpar qui est sorti en 2009 sur les convois de trains de déportés français. Entre 40 et 44, ce sera suivi d'un débat avec le réalisateur et Jean-Jacques Gandini, avocat au barreau de Montpellier. C'est à 20h au cinéma Diagonale Capitole et puis également Cinéma avec Liberté, le film de Tony Gatliff, qui sera suivi d'un débat avec David Comabella, éducateur et membre de la communauté gitane de Montpellier. C'est à voir à 20h30 au cinéma L'Arc-en-Ciel à Cange. Voilà, c'est tout pour les bons plans du jour. Je passe le relais à Manuel Plaza qui va nous présenter la nouveauté de la semaine.
Merci Julia. La nouveauté de la semaine, c'est un exemple parfait de ce que peut donner parfois la construction européenne, à savoir un trio constitué d'une chanteuse autrichienne, d'un multi-instrumentiste catalan et d'un batteur italien. Ils s'appellent tous les trois Lonely Drifter Karen, du nom d'un personnage du film Les Idiots de Lars von Trier, figure-toi. Et c'est leur deuxième album qui est sorti il y a quelques jours de cela. Il s'appelle Fall of Spring. On précise pour finir avant de les écouter avec un extrait de cet album qu'ils seront en concert mercredi sur la scène du Rockstore. L'album donc c'est Fall of Spring, je l'ai dit, et le titre que voici et qui ouvre l'album c'est This in Motion.
And I think of you in motion, and you bring me sleepless nights, things that only I control freak would be able to deny. Why can't we push and walk together? Instead we push the other one. Hold me in your claws, sharp
Voilà, This in Motion, extrait de Fall of Spring, second album des 13 européens Lonely Drifter Karen. Un album sorti chez le label belge Cramed Disc. Le groupe sera en concert cette semaine à Montpellier. Ce sera mercredi soir au Rockstore.
Tous au poste, interview.
Tous au poste sur Divergence FM, le 93.9, Florent Robin au micro. Et nous allons parler de théâtre aujourd'hui avec une pièce entre guillemets, un spectacle qui se joue au Théâtre du Hangar du 22 au 30 avril 2010, l'atelier d'Alberto Giacometti. Et j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Meige. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette rencontre, l'atelier d'Alberto Giacometti, c'est l'histoire d'un artiste, Giacometti et Jean Genet. Et oui. Une rencontre qui a eu lieu en, de 1954 à 58, où Jean Genet s'est rendu dans l'atelier de Giacometti, qui était rue Hippolyte-Mandron, que je connais bien puisque j'habitais à côté pendant très longtemps. Et de cette rencontre va naître des portraits, des tableaux et un livre de Jean Genet, l'atelier d'Alberto Giacometti.
Oui, c'est ça.
J'ai bien résumé à peu près la situation.
Très très bien.
Alors, peut-être préciser d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas, qui était Giacometti et qui était Jean Genet. Jean Genet, on connaît peut-être un peu plus, mais Giacometti, qui a quand même été très influent dans l'art du XXe siècle.
Jean Genet, c'était un passionné d'art. Mmh. Et c'est pas le seul essai qu'il a écrit d'ailleurs. Il a écrit aussi Le Funambule, dans une même série, trois essais sur l'art, Le Funambule, L'Atelier d'Alberto Giacometti et À propos de Rembrandt.
Voilà.
Et c'est un triptyque qu'il a écrit autour de trois artistes différents. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes aspects philosophiques, ces mêmes ambitions dans ces trois essais. Mmh. Voilà. Et la rencontre avec Giacometti, elle se passe à un moment où c'est un carrefour pour ces deux artistes. Lui, il est libéré d'une pression carcérale où il a beaucoup écrit en prison. Où
il écrivait des romans en prison.
Beaucoup de romans. Il a écrit aussi Haute Surveillance, une de ses premières pièces de théâtre. Mais libéré de ce poids-là, il est un peu dans une recherche de lui-même, une quête qui comment retrouver l'écriture après ça. Et lui, Alberto, est plus dans voilà, il se détache du mouvement surréaliste et il cherche aussi une nouvelle voie, un nouvel axe dans son travail et une nouvelle recherche. Voilà. Donc c'est vraiment un carrefour pour ces deux artistes, cette rencontre-là.
Bah de ce questionnement, Jean Genet va s'orienter petit à petit aussi vers le théâtre.
Oui. Hein,
c'est vrai qu'il a écrit l'atelier Haute Surveillance en prison. Oui. Il va écrire après Les Bonnes.
Les Bonnes, Le Balcon, ça suit. En fait, et d'ailleurs, je trouve que dans l'atelier d'Alberto Giacometti, même si ce n'est pas un texte théâtral, il y a déjà une veine un peu théâtrale. Il y a quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça du théâtre.
Oui, voilà. Parce qu'il y a souvent des dialogues entre Giacometti et Jean Genet.
C'est ça, les personnages apparaissent, disparaissent, ils sont vivants, ils sont là, sur scène. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous, le parti pris avec ce spectacle-là et ce texte-là, ça a été de faire parler l'objet. Cette œuvre, ce tableau qu'a réalisé Alberto Giacometti de Jean Genet, il en a réalisé trois et quatre dessins. Et sur scène, moi, je suis le tableau.
Oui, voilà. Parce qu'on pouvait imaginer, moi, quand j'ai lu le texte et quand j'ai appris que ça allait être monté sur scène, je me suis dit peut-être qu'ils vont faire un dialogue entre Giacometti et Jean Genet, ce qui aurait été le plus simple. Mais en fait, pas du tout. Donc, c'est le point de vue du tableau.
Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ça donne une notion, une dimension fantastique au texte et puis à la mise en scène. Mm-hmm. C'est le tableau qui se met à vivre, qui se met à parler, qui se met à bouger, qui se met à rire et qui évolue dans l'espace. Et qui va tailler le portrait à son tour, lui, d'Alberto Giacometti. C'est un échange de portrait à portrait. Alberto a fait le portrait de Jean Genet, et là, c'est Jean Genet qui fait son portrait. Et c'est ça qui est chouette. Voilà.
Et pour ce tableau, Jean Genet, il a posé 40 jours.
Oui,
40 jours. Dans des conditions difficiles. Il parle, je crois, dans le texte, il a encore dans les fesses la paille de la chaise.
C'est ça. Il est assis, bien droit, immobile, rigide. Il le nomme souvent. Mais c'était une passion pour Jean Genet. Ça a été une vraie rencontre humaine et avec beaucoup de respect. Alberto, il peignait beaucoup. Hein. Il y a René Char qui a eu son portrait. Il y a eu pas mal d'artistes qui sont passés dans son atelier. Mais c'est vrai que la rencontre de Genet et d'Alberto Giacometti, elle a été longue dans le temps, mm-hmm. parce que pendant 4 ans, ils se sont vus régulièrement et ils ont beaucoup discuté de leur art à tous les deux, un échange comme ça, assez riche et fort. Mais après, il y avait cette dimension. Moi, j'ai le sentiment que Jean Genet, à travers le travail d'Alberto Giacometti, nous parle de son travail, de la création de ses personnages dans ses pièces de théâtre. Il y a quelque chose. Il y a des personnages du balcon. Le roi dans le balcon, pour moi, on le retrouve dans ce peuple des morts-là, dont il nous parle dans...
C'est vrai qu'on sent dans ce texte qu'il est en pleine réflexion, lui, en tant qu'artiste. C'est vrai qu'il y a eu le texte aussi de Sartre qui l'a quand même pas mal ébranlé.
Oui, hein, voilà. Ah oui, il s'en est pas vraiment... Il a beaucoup respecté ce texte, mais il n'a jamais réussi à le lire jusqu'à la fin.
C'est un texte qu'il a démoli aussi.
Ah oui, oui, oui.
Après ce texte, il ne pouvait plus écrire de roman.
C'est ça.
Et il ne savait plus ce qu'il allait écrire. Donc,
il avait une reconnaissance littéraire qui était acquise, qui était même mondiale. Jean Genet à ce moment-là, après ce texte de Sartre. Mais lui était complètement démoli de l'intérieur. Il ne savait plus par quel souffle recommencer son écriture et de quelle manière, quoi dire après tout ça.
Et comment le dire
et comment le dire,
quelle expression. Ouais. Et c'est vrai que vous parliez de Giacometti, lui, il venait de sortir du mouvement surréaliste,
oui.
comme beaucoup qui sont passés, qui ont affronté le pape breton.
Oui.
Il était en même temps dans cette recherche, dans une recherche similaire.
Dans une recherche similaire et une incompréhension aussi du mouvement surréaliste. Il ne le comprenait pas.
Il ne comprenait plus.
Il y avait un problème de... Voilà, il ne savait plus comment se positionner non plus. Et c'était une vraie recherche pour lui. Après, il était déjà dans une période où il était très reconnu internationalement. Et lui, c'était vraiment privilégier son travail, son rapport avec Diego, au buste. Il faisait ses gammes, hein, Alberto. Il continuait de travailler comme un malade. Mmh. Il ne s'est jamais arrêté.
C'est vrai qu'il y a sa santé aussi qui en a...
Et sa santé, oui.
Parce qu'il est mort peu de temps. Il est mort en...
66.
Donc, il fallait faire vite.
Oui, il fallait faire vite. Et c'est vrai qu'il avait une santé... précaire, il s'est un peu négligé.
Et donc cette rencontre, c'est la rencontre en même temps de deux caractères, parce que c'est vrai que Giacometti n'était pas connu pour être forcément quelqu'un de facile,
non.
Et Jean Genet non plus.
Mais Jean Genet disait que la seule personne qui l'a impressionné dans sa vie, ça a été Alberto.
C'était, oui, bien sûr.
C'est la seule personne qui l'a vraiment impressionné, qui l'a émerveillé, qui l'a... Moi je trouve que dans ce texte de Jean Genet, on n'a pas ces bas-fonds. On n'a pas cette torture qui peut avoir ces bas-fonds humains qui nous racontent dans ces récits, dans ces romans ou dans ces pièces. Il y a quelque chose de très lumineux.
Tout à fait.
Dans cet essai. Et moi, j'étais étonné de ça au départ quand j'ai commencé à travailler ce texte. Je me disais, mais c'est par rapport à ces pièces ou par rapport à ces textes, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Alors après, oui, il y a quand même des notions de Jean Genet qu'on retrouve. Des blessures, le peuple des morts, toute sa dimension philosophique à l'objet, c'est quoi l'image qui est importante chez Jean Genet. Mais il y a quelque chose de... C'est presque une déclaration d'amour.
C'est très important, ça aussi. Ouais. C'est joli. Ouais. Mais il y a un autre point commun, je dirais, entre Giacometti et Jean Genet, ça a été les débuts difficiles. Giacometti, il a quand même pas mal bouffé de vaches enragées. Et on parlait de Jean Genet, lui, il a fait un peu de tout. Il a fait pas mal de prisons.
15 ans, oui.
Hein, et il faisait des prisons par petits bouts. Parce
c'est
que
ça.
C'était des... Mais il a connu le bagne aussi, le bagne pour enfants.
Il a connu le bagne,
à Maitrey.
Il a fait la guerre.
Oui, comme il disait, j'étais un mauvais voleur. Hein,
oui.
Parce que il volait des livres, d'ailleurs.
Oui, il volait des livres. Il a été déserteur. Et c'est vrai qu'il a... Puis il a une enfance terrible.
Oui, donc, oui, une enfance épouvantable. Et je me souviens d'une anecdote, c'est quand il avait été jugé à un moment, à l'un de ses procès, il y avait le juge qui lui demandait, monsieur, vous avez volé cette édition, je crois que c'était une édition originale de Verlaine, monsieur Genet, est-ce que vous en connaissez le prix? Et Jean Genet qui répond, je n'en connais pas le prix, monsieur le juge, mais j'en connais la valeur. Je vous cite de mémoire.
D'accord, oui.
Mais vous, qu'est-ce qui vous a intéressé pour monter, pour vous lancer dans cette aventure de monter l'atelier d'Alberto Giacometti, qui, je le reprécise à nouveau, n'est pas un texte au départ théâtral?
Alors, moi, c'est Muriel Pascal, la metteuse en scène, qui m'a appelé, qui m'a demandé de lire ce texte et de savoir si je voulais bien l'interpréter. Moi, à la première lecture, j'ai été...
Vous connaissiez le texte avant ou pas?
Non, je l'ai découvert quand Muriel me l'a amené ici, d'ailleurs, à Montpellier. Je ne le connaissais pas du tout. Je connaissais Jean Genet, je connaissais Alberto Giacometti, mais de manière très vague, très pour Alberto. Donc j'ai lu le texte et tout de suite, ça a été, pour ma part, un coup de cœur.
C'est vrai que le texte est un enchantement aussi.
Voilà, et puis Muriel, elle a eu cette idée géniale de, au niveau de la mise en scène, au niveau de son point de départ, que ce soit l'œuvre d'art qui se mette à parler. Comme la symbiose d'une rencontre entre
deux
artistes.
Ça, c'est une véritable
artistes.
Idée, ça.
C'est une véritable idée parce que c'est une vraie liberté sur scène. Mm-hmm. Ça ne fiche pas du tout le texte, ça ne l'enferme pas quelque part.
Au contraire, ça l'éclaire.
Ça l'éclaire et ça l'ouvre à l'espace, à toutes les auditions possibles, toutes les interprétations possibles. Et ça, c'est une véritable belle idée de Muriel. Puis après, on a fait un vrai travail avec le scénographe, Olivier Lafont, avec la costumière Amandine. On est tous une petite famille. Hein.
Bien sûr.
Et de là, il y a une vraie rencontre dans cette équipe qui fait qu'on est tous portés par ce texte. Donc moi, c'est vraiment le texte de Jean Genet qui m'a... C'est le point de départ. Et il y a tout dans ce texte. Mmh. Il faut vraiment le... Depuis quelques jours, je me dis qu'il faut vraiment faire confiance à ce texte parce que tout est écrit dedans. Tout est porté dedans. Il y a de la poésie, il y a de la...
Il y a de la philosophie, voilà. Il y a une réflexion sur l'art. Voilà. C'est pour ça que c'est un des textes les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle, à mon sens, concernant la réflexion artistique et la création.
En tout cas, c'est vraiment c'est le sujet. Voilà. Mmh. C'est des questions. Alors après, ce qui est beau aussi, c'est que j'ai le sentiment que Jean Genet nous pose ses questions, nous pose son regard, sans nous donner vraiment de réponse. On est happé par ce souffle-là et
c'est vrai que Jean Genet donne rarement des réponses.
Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est chouette.
Que ce soit dans ses pièces de théâtre ou dans ses romans ou dans ses essais, il donne rarement de réponses. Oui. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant.
Et du coup, oui, qui nous porte.
Il soulève des problématiques et souvent poétiques, parce que oui. C'est toujours dans un langage poétique et philosophique et
mystique
provoquant,
un peu. Oui.
Provoquant aussi.
Oui. Oui.
Et voilà. Et la rencontre avec le théâtre du Hangar, quand vous avez proposé l'atelier d'Alberto Giacometti, ça s'est passé comment ?
Alors Muriel a une histoire avec Jacques Biolès et le théâtre du Hangar. Ah. Elle a sa compagnie, c'est la compagnie de l'Estaminet. Et ils ont monté il y a 2 ans, il me semble, Prologue de Coltès.
D'accord.
Et puis Muriel était auparavant comédienne dans le petit atelier 3 et jouait régulièrement au théâtre du Hangar. Mmh. Ils ont monté Fando et Lys d'Arabal. Ils ont monté Récit de femmes. Ils ont monté quoi encore enfin, je sais que voilà, il y a eu plusieurs spectacles. Moi, j'arrive là en ce moment au théâtre du Hangar. C'est une rencontre avec Jacques Biolès et ce lieu qui est.
C'est un beau lieu.
C'est un lieu magnifique.
C'est un lieu très agréable.
Et superbe pour ce texte. Il y a quelque chose qui. Moi, dès le premier jour, il y a une symbiose qui se crée.
C'est le mot que j'allais dire. Symbiose.
Ah oui, oui. C'est magnifique.
Mais c'est vrai que c'est un lieu très agréable qu'on soit spectateur ou qu'on soit comédien, metteur en scène. Mmh. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de certains textes qui passe.
Et puis c'est un lieu qui nous laisse le temps. Mmh. Qui nous laisse le temps de travailler, le temps de digérer le travail, le temps de la représentation. Et on sent qu'on a cet espace. On n'est pas. C'est pas une usine à spectacle. C'est pas on a le temps. Et ça, c'est plutôt.
C'est plutôt appréciable, c'est plutôt,
très
plutôt confortable.
Oui.
Je vais vous demander peut-être un exercice un peu difficile, si vous le voulez bien,
oui.
De nous lire un extrait, un ou deux extraits. On a le temps aussi à Divergence, hein. C'est une station où on prend le temps de se poser.
Alors je vais vous lire un premier extrait. Il n'est pas à la beauté d'autre origine que la blessure, singulière, différente pour chacun. Caché ou visible, que tout homme garde en soi, qu'il préserve et où il se retire quand il veut quitter le monde pour une solitude temporaire mais profonde. Il y a donc, loin de cet art, à ce qu'on nomme le misérabilisme. L'art de Giacometti me semble vouloir découvrir cette blessure secrète de tout être, et même de toute chose, afin qu'elle les illumine.
Alors c'est très curieux que vous ayez choisi ce texte, on ne s'est pas concerté du tout avant,
non.
Mais c'est justement un texte que j'avais choisi moi aussi, donc les grands esprits se rencontrent.
Voilà.
C'est un très beau texte, c'est un très bel extrait. Un deuxième ?
Un deuxième.
On a un peu de temps là.
Alors je le trouve.
Et en plus on a la même édition, on est venu avec la même édition. Je rappelle que c'est la belle édition aux éditions de l'Arbalète, la tenue
voilà,
d'Alberto Giacometti. Qui est l'édition qui fait référence. Je vous laisse chercher.
Septembre 57. La plus belle statue de Giacometti, je parle d'il y a 3 ans, je l'ai découverte sous la table en me baissant pour ramasser mon mégot. Elle était dans la poussière. Il l'a cachée. Le pied d'un visiteur maladroit risquait de l'ébrécher. Lui, si elle est vraiment forte, elle se montrera, même si je la cache, non ? Lui, c'est joli. joli. Malgré qu'il en ait, il a conservé un peu l'accent des grisons. C'est joli. Ses yeux s'écarquillent. Son sourire est aimable. Il parlait de la poussière couvrant toutes les vieilles bouteilles d'essence qui encombrent une table de l'atelier.
C'est vrai que Giacometti avait un léger accent.
Oui.
Il était de quelle origine ?
Il était, dont l'origine des Grisons, c'est suisse-allemande.
C'est suisse-allemande.
Voilà. Et d'ailleurs, il avait toujours sa maison, sa maman qui habitait là-bas. Mm-hmm. Il a une très grande correspondance avec elle. Il y retournait chaque été pour travailler là-bas. Il s'éloignait un peu de Paris et de Montparnasse et de son quartier, de ses rencontres et de ses nuits agitées. Et il allait se reposer là-bas chaque année pour travailler.
Bah, je vous conseille, si vous passez à Paris, c'est d'aller voir son atelier, oui. Hippolyte Mandron.
Alors maintenant, c'est un autre sculpteur qui habite, parce que j'y suis passé. Et c'est un... Alors j'étais très content de voir qu'il y avait un autre sculpteur, un autre artiste qui travaillait là-bas. Mais j'ai pas pu rentrer.
Non, c'est très difficile. Mais même de l'extérieur, c'est assez émouvant.
Oui, oui, ça n'a pas changé.
Très émouvant.
C'est la même...
On se fait un petit dernier extrait, on a encore 3 minutes.
On a encore 3 minutes. Alors je vais vous lire un dernier extrait. On va suivre l'ordre chronologique du texte. Je suis assis, bien droit, immobile, rigide. Que je bouge, il me ramènera vite à l'ordre, au silence et au repos sur une très inconfortable chaise de cuisine. Lui, me regardant avec un air émerveillé. Comme vous êtes beau! Il donne 2 ou 3 coups de pinceau à la toile, sans semble-t-il cesser de me percer du regard. Il murmure encore, comme pour lui-même. Comme vous êtes beau, non? Puis... Il ajoute cette constatation qui l'émerveille encore plus. Comme tout le monde, hein? Ni plus, ni moins. Voilà.
Alors on rappelle que de ces séances de travail vont être plusieurs œuvres. Donc 4 dessins, si je me trompe, vous me dites
oui,
si je me trompe.
Oui, oui, c'est ça.
4 dessins, 3 tableaux.
Oui.
Et donc ce texte.
Voilà.
Ce texte magnifique, l'atelier d'Alberto Giacometti.
Voilà.
On va peut-être rappeler les lieux, l'heure du spectacle.
Alors,
donc c'est au Théâtre du Hangar.
Voilà, c'est au Théâtre
du Hangar. Ça a commencé le 22.
Oui.
Hein, et donc aujourd'hui c'est relâche. Mmh. Sinon demain c'est à 20h45.
Oui.
Mercredi c'est à 19h. Jeudi c'est à 19h. Et vendredi c'est à 20h45.
C'est ça.
Et le prix ?
Le prix c'est 14 euros. Il me semble, et puis il y a des tarifs réduits à 10
14,
euros.
10 euros, voilà, pour les lycéens, les collégiens, c'est 5 euros, et pour les possesseurs de la carte Pass Culture.
Voilà.
Voilà, mais merci à vous de nous avoir parlé de Jean Genet, de Giacometti sur Divergence FM. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Across the scene, world.
the trees after railroad, after the storm I'll be watching.
Et bonjour, bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui, ensuite, la suite du Tous au poste, Alain Gioda. Alain Gioda, bonjour.
Bonjour.
Climatologue, historien du climat, spécialiste du brouillard. Mais pourquoi est-ce qu'Alain Gioda est dans les locaux de Divergence? Eh bien, figurez-vous que c'est pour parler du climat et on va s'appuyer sur cette controverse qui oppose un groupe de 400 scientifiques qui ont signé contre l'homme tout seul, la grande gueule, Claude Allègre, qui manifestement ne met pas tout le monde d'accord sur ses déclarations sur le climat. Et Alain Gioda, on se connaît, on se tutoie, on va pas se mettre à se voyer parce qu'on est à la radio. Tu as des choses à dire sur cette histoire, mais je voudrais avant juste te poser une question en rappelant avant cette question un petit peu le haut de la lettre qui a été adressée à Madame la ministre de la Recherche, à Monsieur le directeur de la Recherche, au président de l'Académie des Sciences et aux différents acteurs de la recherche, CEA, CEMAGREF, CIRAD, IFREMER, INRA, etc., etc., IRD, et où le début de la lettre des scientifiques disaient « Nous, scientifiques du climat, attachés au devoir de rigueur scientifique, interpellons les structures référentes de la recherche scientifique française face aux accusations mensongères lancées à l'encontre de notre communauté. » Première question, est-ce que Claude Allègre ne fait pas partie de votre communauté ?
Non, M. Allègre n'a jamais écrit un livre ou un article scientifique pointu, disons, de référence, peut-être même de divulgation intéressant, sur le climat. C'est un des problèmes de M. Allègre, c'est qu'il ne fait pas partie, entre guillemets, de la spécialité. Alors bien sûr, il n'y a pas un ordre des climatologues, c'est évident, c'est un milieu extrêmement ouvert, mais si vous voulez, il y a quand même, c'est un peu embêtant, disons, en étant avec un peu d'humour, de parler de ce qu'on ne connaît pas, quoi.
Mais dans les 400 scientifiques qui ont signé cette pétition, tous ne sont pas des spécialistes du climat et des climatologues, si ?
Ah oui, tous. Et après, on a été à peu près 600, on estime. Le ministre a reçu une liste de 600 noms avec les références. Ce sont donc tous des professionnels. On estime notre communauté à l'ordre de 1000 personnes. Alors pourquoi il nous en manque 400 ? D'abord parce qu'on a laissé qu'une semaine et demie, deux semaines pour remplir. Il y a des gens qui sont très loin, notamment en Antarctique, en mission. Et puis des collègues n'ont pas voulu signer pour différentes raisons qui déshonorent cette lettre ouverte. Bon. Donc on a eu 600 sur 1000.
Bon, pour résumer, c'est quoi le problème, hein ? C'est que d'un côté, ben, y en a un qui dit « continuons comme ça, de toute façon, réchauffement climatique, c'est bidon ». Tous ces gens-là racontent n'importe quoi et moi, je vais vous dire comment ça se passe. C'est ça, à peu près ?
Oui, on peut résumer comme ça. D'un côté, si vous voulez, il y a un personnage que le roi Ladurite qualifie de baroque, que moi, je mettrais plutôt du côté de la commedia dell'arte. Donc, c'est ce qu'on appellerait une grande gueule. Donc, il y a un grand talent. Plus proche, à mon avis, des grosses têtes de Philippe Bouvard que de la science. Mais enfin, bon, ça n'engage que
peut-être
moi.
Peut-être une reconversion possible pour Allègre.
Donc ça, il faut lui reconnaître un grand talent avec les médias. Et voilà, donc ça, c'est son fonds de commerce numéro un. Les gens sont très heureux de le recevoir à la télévision. Après, il y a des fautes, il faut le dire franchement, de la part de notre communauté au sens large et des gens qui veulent bien nous soutenir. Les fautes sont, par exemple, un discours catastrophiste, triste, répétitif. Donc ça, ce n'est pas très bon. On ne peut pas toujours peindre le lendemain en noir, même si on le pense. Il y a quand même au niveau de l'approche, il y a une grosse erreur. Et ensuite, la taxe carbone qui n'était pas bien présentée, le moins qu'on puisse dire, et qui a repoussé largement l'opinion publique, une partie de celle-ci, face au problème du réchauffement climatique.
Bon, par rapport justement à ce fameux réchauffement climatique, l'homme de la rue, comme on dit, que je suis et qui n'y connaît rien parce que c'est normal, hein, je suis pas un scientifique. Quand je vois qu'il a neigé deux fois cet hiver, je me dis ouais bon, le réchauffement climatique, hein, Mais j'ai tort certainement.
Oui, ça c'est un autre petit fond de commerce de Monsieur Allègre.
Et oui,
vous voulez, c'est que c'est le contexte météo, c'est-à-dire que Monsieur Allègre mélange deux sciences, si vous voulez, la météorologie.
Et
la climatologie. Pour simplifier, la météorologie, c'est à quelques jours, 10 jours au maximum, on peut dire la saison, tandis que la climatologie, ça peut considérer que ça dure des siècles, des millénaires, des millions d'années, etc.
Mais quand on dit le climat se réchauffe, on parle de CO2, etc. Ça reste dans ce que moi j'appelle la malédiction du savoir. Le CO2, c'est pas tellement perceptible.
Ah non,
Alors que la pollution des eaux, c'est perceptible. Que les activités humaines, par la production de déchets, etc. Tout ça, c'est perceptible. Et c'est ça qui va produire. C'est cette activité humaine qui va produire des rejets, mais pas que de CO2, quoi.
Ouais.
Et donc, alors, question que je me pose moi dans ce grand débat sur le climat, pourquoi il est lié qu'au climat et pourquoi il n'est pas lié sur une démarche globale, quoi, du fonctionnement humain, hein. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on ne parle pas de la pollution et des déchets et qu'on parle du climat.
Oui, c'est-à-dire que
compliqué ça. Non, le CO2.
Oui, le CO2, le problème qu'il a, c'est un gaz invisible, inodore, et donc fatalement il y a un problème. Alors, si on veut remonter à la deuxième partie de la question, si vous voulez, c'est que de façon plus globale, tout ceci est parti dans les années, il y a déjà une bonne année, puisque le vecteur, si vous voulez, de ces idées, c'est peut-être un scientifique anglais qui s'appelle Lovelock, et qui a 90 ans aujourd'hui, hein, qui a toute sa tête. Et Lovelock est le premier qui a considéré la Terre comme un ensemble. Il a créé un peu le concept ou le paradigme de Gaïa. Et Lovelock, tout en étant très critique envers nous, est quelqu'un qui pense qu'il faut quasiment, si vous voulez, entrer en guerre pour essayer de freiner le changement climatique. Si vous voulez, à la fois Lovelock nous critique parce qu'il considère qu'on est un petit peu acheté, qu'on n'est pas toujours impartial. Lui est un scientifique âgé, pauvre, et considère par contre comme lui qu'on ne prend pas assez de mesures, si vous voulez. Donc si vous voulez, il y a toutes les graduations qui sont possibles, d'où une confusion dans le public. Qu'on accepte, hein. Et de toute façon, les choses ne sont pas forcément simples. Mais quand vous manipulez le concept de complexité, vous allez fracasser en public. Donc, ce que fait M. Allègre, c'est aussi un de ses petits fonds de commerce, c'est qu'il ne parle pas de choses complexes. Il simplifie tout. Tout devient un match de football entre, si vous voulez, Real Madrid et Barcelone.
Mais justement, n'a-t-il pas justement les portes grandes ouvertes, lui ou quelqu'un d'autre aurait pu faire ça, de toute façon, sur ces sujets, justement pour la raison que j'expliquais avant, c'est que c'est complexe. C'est-à-dire que c'est très difficile de comprendre et d'assimiler cette notion de physico-chimique, le CO2, etc. Et CMI, alors que c'est très facile, encore je reviens, j'insiste là-dessus, de comprendre que bon, si je jette tant de kilos d'ordures par jour et que je diminue mes ordures de la moitié, ça a une influence sur toute la chaîne de production humaine. Pareil pour l'eau, si j'arrête de rejeter du pipi dans l'eau plein de Prozac et d'antibiotiques et de je ne sais trop quoi, je vais moins polluer les eaux pour les pesticides. Ça, c'est compréhensible parce que c'est pratique. Mais là, on est on est effectivement sur le climat, sur quelque chose qui est très large, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde ça sur des échelles de dizaines, voire de siècles. Et c'est très difficile lorsqu'on n'est pas évidemment spécialiste, et encore même entre spécialistes, ça ne doit pas être évident. C'est très difficile d'avoir cette modélisation scientifique en tête quand on n'est pas dans le domaine. Alors, c'est bien de dire Allègre dit des conneries, mais est-ce que pour autant, nous, le grand public, on vous comprend quand vous parlez?
Non, je reviens. Donc, le problème du CO2, et ça a été dit et vous le soulignez bien, c'est donc un gaz inodore et invisible. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, si vous voulez, nous, pour essayer de faire simplifier le discours, tout en tombant pas dans un match de football, si vous voulez, simplement à dire que nous allons faire des efforts pour être, par exemple, plus transparents, donner nos données de façon gratuite et la plus ouverte possible aux gens qui nous interpellent. Voilà, c'est-à-dire qu'en clair, ouvrir nos laboratoires. Et c'est un petit peu ça le sens de la lettre, si vous voulez, interpellation au ministre. C'est de dire, donc, voilà, on est attaqué, on est critiqué, on accepte les critiques. Bon, pas celle de mauvaise foi quand même, parce que sinon là, ça relève du tribunal. Mais enfin, on ne va pas déposer plainte hein, quand même. Mais voilà, quelle est votre opinion? Est-ce que vous estimez que c'est encore décent de nous serrer la main? Est-ce que vous voyez? Donc, pour simplifier le débat et pour le faire sortir, si vous voulez, des insultes, puisque beaucoup de débats, entre guillemets, à la télévision ont tourné à la foire d'Empoigne. Alors, c'est très bon pour l'audimat. Pour l'audimat,
Pour le public scientifique, c'est pas
génial. Et surtout pour le public.
Oui, c'est sûr. Donc, les suites données à cet appel, il y en a eu? La ministre a réagi, n'a pas réagi. Les différents directeurs de centres de recherche, les représentants, au CEA, au CEMAGREF, à l'INRA, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là par rapport à cette lettre? Il y a eu des réactions? Il n'y a pas eu de réaction?
Nous sommes très contents. Parce que le ministre, c'est un homme politique, ou plutôt une femme politique dans ce cas-là, mais on n'attend pas, si vous voulez, qu'il prenne parti sur un sujet difficile qu'il ne connaît pas. Il avoue d'ailleurs très modestement.
Et ce n'est pas son rôle en plus.
Ce n'est pas son rôle. Par contre, ça nous a permis d'avoir des réponses de ceux qui nous commandent, si vous voulez, hein, ceux qui nous payent. Donc on a eu le soutien du directeur général du CNRS, le soutien de l'agence qui s'occupe de tout l'environnement en France, le soutien des directions du CEA. Et pour nous, c'est ce qu'on voulait. Hein.
Vous avez voulu asseoir votre légitimité
dans notre propre institution. Il ne s'agit pas dans la rue. Hein. Dans la rue, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes.
Vous voulez que votre employeur défende ses salariés, entre guillemets.
Ou alors qu'il nous critique.
Ou alors qu'il vous critique.
Ça, on accepte sans problème. Donc il a gentiment, ou il a réfléchi, et il a pensé à nous soutenir, ce dont on le remercie. Hein. Mais maintenant, il y a des débats à différents niveaux, si vous voulez. Nous, la lettre ouverte était la lettre ouverte au ministre et surtout, essentiellement, donc vous l'avez compris, à ceux qui nous payent directement. Mais il y a un combat aussi qui se passe aussi au niveau des médias. Donc là, je suis pas pour rien devant Divergence. Et il y a un combat face à l'opinion publique. Alors, dans les médias, c'est relativement équilibré. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des journaux avec nous, des journaux contre. Dans la rue, si vous voulez, c'est plus difficile parce que on a certainement un peu moins de succès. Donc en gros, chez les scientifiques, on a du succès. Dans les médias, c'est moyen. Et dans la rue, ça peut être médiocre, il faut le dire franchement. Parce que précisément, on n'arrive pas à simplifier forcément notre discours. On est confus.
La vulgarisation scientifique, c'est pas facile. Hein.
Voilà. Mais par exemple, pour vous dire la vulgarisation scientifique, un des classique, monsieur de la vulgarisation scientifique qui s'occupe vraiment pas du tout de climat, mais qui s'occupe d'astronomie ou d'astrophysique, Reeves refuse de serrer la main à monsieur Allègre.
Mais parce que Hubert Reeves est un poète et qu'Allègre est un pragmatique.
Non, mais il refuse depuis peu de temps, si vous voulez. Hein.
Bon, il n'est pas coutumier de ce genre d'attitude, Hubert Reeves. C'est plutôt quelqu'un de... Voilà. D'ouvert. Donc c'est vraiment qu'il l'a mauvaise. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Claude Allègre, qu'il vend ses livres, que c'est une grande gueule, etc., mais que derrière il y a des gens qui bossent. Parce qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les OGM c'est super. Il a raison. On fait l'insuline avec les OGM. Enfin, il confond que l'OGM des insulines qui a une traçabilité et l'OGM en plein champ, c'est pas la même chose. Enfin, bon, c'est un autre débat. Et il mélange beaucoup de choses. Je me demande, moi, si cette communauté scientifique qui a voulu réagir aux propos d'Allègre réagirait aussi aux autres positions d'Allègre sur d'autres sujets, ou c'est que sur le climat que vous avez des choses à remettre en question.
Nous, si vous voulez, on essaie de garder beaucoup d'humour. On a été soutenu par le Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, y compris le Midi Libre. J'attache beaucoup d'importance à ce qu'on a des caricatures, des vignettes. Il y en a eu certaines qui étaient très amusantes, certaines étaient un peu méchantes, mais enfin bon, si vous voulez, monsieur Allègre, il aime beaucoup, comme c'est un personnage baroque, hein, comme l'appelle le roi La Durie, il aime même beaucoup, comme dans le Midi, la castagne. Donc ça lui plaît beaucoup, les controverses, les engueulades, les cris, ça fait partie un peu de son personnage. Alors le seul problème, c'est que si vous voulez, il n'est pas en position, comme il dit, si vous voulez, d'être faible, d'être seul contre tous, là il embête tout le monde. Il embête.
il nous reste Alain 3 minutes. Tu pourrais euh, Tu pourrais peut-être me dire, par rapport à ce changement climatique, quel est le comportement que nous autres, nous devons avoir ? Parce qu'il y a la science qui dit telle chose. On voit que, par exemple, l'OMS nous a prédit une pandémie mondiale horrible et on s'est aperçu que H1N1 a fait un beau flop et que ça nous a fait dépenser beaucoup d'argent. Donc il y a une mise en doute, une remise en question de, on va dire, des institutions, et même scientifiques, hein, parce que l'OMS s'appuie pas sur des bureaucrates, mais sur des rapports de gens qui travaillent. Sérieusement, quelle attitude on doit adopter par rapport à tout ça? On nous dit que le climat se réchauffe, ça veut dire quoi? Il faut qu'on roule à vélo et qu'on arrête les voitures, très basiquement. Qu'on diminue la production humaine. Qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques pour que le réchauffement climatique ne soit pas puisse être un peu régulier avec l'activité humaine qui pourrait être modifiée peut-être, je ne sais pas.
Moi, je suis spécialiste de l'ancien, hein, ouais. Donc je vois un petit peu les périodes entre guillemets d'il y a 1000 ans, hein, 500 ans, 200 ans. Alors sur le futur, qui est plus difficile, et c'était un des éléments sur lesquels joue Monsieur Allègre, et là, il a absolument raison. Hein, il est extrêmement difficile de prévoir le futur. Néanmoins, on peut penser qu'une attitude plus citoyenne et surtout les efforts qui sont faits à l'école, simplement suivre ces cours comme les jeunes font à l'école, vont déjà, je pense, améliorer. Certes, une contradiction encore de M. Allègre, c'est que lui-même a favorisé, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement du cycle du CO2. Et là, maintenant, 10 ou 15 ans après, je pourrais dire que le personnage est vraiment baroque, il attaque pratiquement les enfants qu'il a fait il y a 10 ans. Donc c'est ça qui est très amusant. Donc en gros, à l'école, il y a un enseignement de qualité qui est diffusé. Simplement, je demande simplement qu'on ne sabote pas le travail des professeurs du secondaire et même du primaire et qu'on ne fasse pas, en passant à l'écran pour passer à la télévision, qu'on ne dise pas le contraire de ce que nos enseignants disent à nos enfants.
Non, mais encore une fois, vous, scientifiques du climat, est-ce que vous nous dites à nous, habitants de cette terre comme vous, qu'on doit changer nos modes de fonctionnement ?
On encourage les gens. Mais on n'est pas une dictature, nous. Hein. Non, tout le monde sait ce qu'il faut faire.
Il y a des recommandations, tout de même.
Il y a des recommandations. Hein. Bon, il faut essayer de marcher plus à pied. Ça améliore la santé. Pour les pays riches, ça fait diminuer l'obésité. Bon, il y a des choses simples que les gens peuvent mettre en pratique. Il y a des choses qui sont mises au niveau des industriels. Il y a des choses qui sont prises au niveau du gouvernement. Non,
on est bien,
à tous les niveaux, on
peut faire
mieux. On est bien
d'accord que si le changement climatique est lié à l'influence anthropique, il faut diminuer l'activité, certaines activités humaines ou les modifier pour qu'il y ait peut-être un renversement.
Voilà. Et alors, une des techniques du gouvernement, peut-être, il a reculé, c'était de taxer. Parce qu'on sait très bien que pour faire reculer en taxant, ça marche.
On y reviendra de toute façon.
Est-ce que c'est triste d'une manière ou d'une autre ? Apparemment, les gouvernements, ils pensent ça en général.
Bon, Alain Giaudat, on te recevra à nouveau. De toute façon, tu passes souvent nous voir à Divergence FM pour parler de climat ou de brouillard. Tu es sur quoi en ce moment ? Tu travailles sur le brouillard, sur le climat ?
Oui, je rentre des Canaries aussi, qu'on a regardé un petit peu où se trouve le programme d'installation des filets à brouillard et où se trouve l'état de la réserve de biosphère de Aliro que j'ai modestement contribué à créer à l'an 2000. C'est une réserve de biosphère de... créé en l'an 2000 et un système aussi de en place un système complet sur Hiéro de ressources complètement renouvelables pour fournir de l'électricité, hein, par le vent et par l'eau.
Eh bien, je te réinviterai pour parler de ces sujets-là. Je te remercie, Alain Giaudat, c'est son nom. Bonne continuation dans cette mise au point.
Merci.
Avec les propos de la grande gueule, Claude Allègre. Eh bien, c'est fini pour nous.
C'est la fin de cette édition de Tous au poste. Julia Chamaudon, Christian Coste, Manuel Plaza vous remercient. Sans oublier Florent Robin, la suite des programmes sur le 93.9, c'est d'ici une vingtaine de minutes. La chronique hebdomadaire d'Alexandre Solutricine, et oui c'est un pseudo, Languedoc et Postillon, c'est son titre. Ce sera suivi à 13h30 du magazine EPRA, en l'absence de Vincent Pourageau. Mais on retrouvera tout de même quelques sujets réalisés par quelques radios amis autour des thématiques habituelles de l'EPRA. Et puis un peu plus tard, dans l'après-midi, vous retrouverez comme chaque jour Cuisine et Décadence à 16h45, Radio Homicide à 17h, juste avant Radio France Internationale. 17h10, ce sera la rediffusion de ce Tous au Poste suivi en ce lundi, que je m'y retrouve dans mes petites fiches de l'émission Ici et Là-bas. Ce sera Provoscopie ensuite à 18h30, le magazine de Jamal Touati Andalous, ce sera à 20h comme chaque semaine, nouvel horaire on le rappelle, et puis Vagabondage avec Thierry Margot, ce sera à partir de 21h30. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de Divergence.